Lizzie présente Churchill, volume 2. L'épreuve. D'Andrew Roberts. Lu par Michelangelo Marchese. Chapitre 21. La défaite de la France. Mai-juin 1940. Quand un pays subit une catastrophe aussi effroyable que celle de la France, tous les maux s'abattent sur lui comme des charognards. Churchill à Clémentine, janvier 1943. Je me montrais sous le jour souriant, avec l'air d'être confiant qui sied quand tout va très mal. Churchill à propos de juin 1940 dans ses mémoires. Churchill connaissait bel et bien pas mal de choses sur la question quand il devint Premier ministre, ayant occupé toutes les plus hautes fonctions ministérielles à l'exception des affaires étrangères. Âgé de 65 ans, il était magnifiquement préparé, par l'expérience, la psychologie et la clairvoyance, pour les épreuves qui l'attendaient. À 23 ans, il avait identifié les 5 éléments de la rhétorique propre à émouvoir le cœur humain, et il les avait fignolés au cours des 4 décennies suivantes. À 25 ans, il avait écrit que si la Grande-Bretagne devait un jour être envahie, il y en aurait, même en ces temps modernes, qui ne s'accommoderaient pas d'un ordre nouveau en acceptant docilement la débâcle. Et, en octobre 1912, il commença à réfléchir à l'endroit où les Allemands pourraient débarquer une armée d'invasion. Dès mai 1901, il avait prévenu des conséquences d'une guerre européenne. Un cruel déchirement. Une lutte qui exigera inévitablement, si nous devons jouir un jour des fruits amers de la victoire, la participation de tous les hommes valides du pays, la suspension totale de la production pacifique de l'industrie et la concentration de toute l'énergie vitale de la communauté sur un seul objectif, et ce, peut-être pendant plusieurs années. Lors des débats sur la loi de finances de 1903, il déclara qu'il avait toujours pensé que le principal objectif que devaient poursuivre les hommes d'État à long terme c'était de cultiver de bonnes relations avec les États-Unis, en se demandant quelle meilleure sécurité ils pourraient avoir en temps de guerre pour le ravitaillement en produits alimentaires venus d'outre-Atlantique. En 1907, il avait visité l'Afrique de l'Est, où la Grande-Bretagne devait remporter sa première victoire stratégique sur Terre entre juin 1940 et novembre 1941. En 1909, il avait incité ses collègues du gouvernement à contacter Orville Wright pour qu'il nous transmette ses connaissances. En mars 1913, lors d'un débat sur les crédits de la marine, il avait imaginé la Chambre des communes bombardée depuis les airs et prédit seulement un an après l'aéroplane militaire en vol au-dessus de son propre pays, sans obstacle et proche de sa base, sera forcément un instrument de combat plus efficace que tout appareil semblable qui pourrait traverser les mers. La bataille d'Angleterre et le Blitz devaient le trouver bien préparé mentalement. Il écrira à juste titre dans ses mémoires à propos de l'intérêt qu'il a porté toute sa vie à la guerre aérienne, « Bien que je n'ai jamais essayé d'être très calé sur les questions techniques, c'est un terrain où je me sentais à l'aise. » Sa fascination pour la science et les armes nouvelles, l'avion et le char n'en étant que les exemples les plus évidents, constitua également une excellente préparation pour ce qu'il attendait comme Premier ministre. De même que son exigence d'août 1917, quand il demanda qu'on lui fasse parvenir un bilan de la production de chars sur une seule feuille de papier. Churchill avait acquis une bonne partie de ses connaissances scientifiques auprès du professeur Lindemann et, en septembre 1924, nous l'avons vu, il avait publié un article sur les bombes nucléaires dans la Pall Mall Gazette qui devançait de 15 ans la lettre d'Albert Einstein au président Roosevelt et dans laquelle il indiquait qu'il était possible d'en produire. Il y prédisait aussi l'avènement de missiles comme les V1 et V2. Une bombe pas plus grosse qu'une orange et possédant la puissance cachée de rayer d'un seul coup une agglomération de la carte, pourra-t-elle un jour être fabriquée? Des engins volants bourrés d'explosifs, même du type actuel, sans pilote humain, ne pourraient-ils pas être guidés automatiquement par radio ou par d'autres rayons vers une ville, un arsenal, un camp, un port ennemi, en un défilé incessant? La création de Room 40, consacrée au décryptage à l'amirauté pendant la Grande Guerre, la première agence de ce type depuis 70 ans, lui avait appris la valeur des données de renseignement brutes et non traitées par des commissions. Cela lui fut très utile pendant la Seconde Guerre mondiale, et il avait aussi tiré les leçons de l'observation du service du renseignement de Sir Douglas Haig. La tentation de ne faire connaître à un grand chef que ce qu'il a envie d'entendre est bien souvent la source des erreurs qu'il commet dans ses choix. Le chef, qui est appelé à prendre des décisions fatidiques, envisage souvent les faits avec une confiance plus grande que ne le justifie la rudesse de la réalité. Comme ministre de l'armement au cours de la Grande Guerre, Churchill avait dirigé ce qu'un historien qualifiera fort justement de plus grande centrale d'achat et de plus important employeur industriel du monde. Ses fréquentes visites sur le front et au quartier général du corps expéditionnaire britannique anticipaient la manière dont il se tiendra au courant de la situation lors du conflit suivant. « La guerre va être longue et pénible », avait-il averti devant le National Liberal Club en septembre 1914, car il ne croyait pas bon d'édulcorer les faits. Faire confiance au peuple avait été la devise de son père, et lui, en novembre 1914, avait envisagé la possibilité de continuer la lutte si la France succombait, lançant à la Chambre des communes « Même si nous nous retrouvions seuls comme au temps des guerres napoléoniennes, nous n'aurions aucune raison de désespérer de nos capacités à poursuivre la lutte indéfiniment. » Il avait harangué ces mêmes communes dès 1932, avant donc qu'Hitler ne parvienne au pouvoir. Dites la vérité au peuple britannique. C'est un peuple endurci et robuste. Sur le moment, il se peut qu'il s'en offusque un peu. Mais si vous lui avez exposé exactement la situation, vous avez pris une assurance contre les plaintes et les reproches qui sont très désagréables quand ils vous sont adressés au lendemain de quelques désillusions. Ses attitudes et ses convictions au cours de la Seconde Guerre mondiale avaient de profondes racines. Il avait expliqué sa stratégie pour la Grande Guerre dans un discours de mai 1916, encerclement, blocus, pilonnage et finalement, surclassement de l'ennemi par le nombre. Si l'on veut battre les Allemands complètement, il faudra les battre comme Napoléon a été battu, et comme les Confédérés ont été battus, c'est-à-dire en leur opposant des effectifs supérieurs sur des fronts si étendus qu'ils ne pourront pas les conserver, ni remplacer les pertes qu'ils y subiront. Il répétera à peu près la même chose en poursuivant ses différentes stratégies, en Afrique, en Méditerranée et dans les Balkans, lors des conférences alliées de 1943 et 1944. Ce fut une guerre dirigée de la circonférence vers le centre, avait-il écrit à propos de la stratégie de Marlborough. Et il en irait de même pour la stratégie des alliés occidentaux 240 ans plus tard. Par ailleurs, sa note extraordinaire d'avril 1918, suggérant qu'on tentât de persuader Lénine de rentrer dans la guerre, n'oublions pas que Lénine et Trotsky se battent la corde au cou, explique qu'il n'ait pas eu la moindre hésitation quand il lui a fallu s'allier à Staline après la violation du pacte germano-soviétique par Hitler. Comme premier lord de l'amirauté avant la Grande Guerre, Churchill avait tenu à Squeeze informé des événements et de ses idées dans des lettres régulières qu'on a pu qualifier à juste titre de longues, directes, bien argumentées et pleines de renseignements. Il était passé maître dans la rédaction de notes ministérielles, ce qui lui fut d'un grand secours dans sa correspondance de guerre avec le président Roosevelt. Ses relations cruciales avec lui avaient été renforcées par la publication de son Marlborough, où il louait son ancêtre pour la façon dont celui-ci avait cherché à parvenir à ses fins en dépit des intrigues, des objectifs contradictoires, des demi-mesures d'une vaste coalition lourde à manier qui essayait de faire la guerre. Churchill était sur le point d'entamer les 5 années les plus éprouvantes de son existence, mais il était fortifié en cela par 65 ans de préparation consciente ou inconsciente. Devant la Royal Society of St. George en avril 1933, il avait tenu des propos grandiloquents qui allaient devenir caractéristiques de ses envolées oratoires de la guerre. Il se peut que les chapitres les plus glorieux de notre histoire restent à écrire. Oui, les problèmes et les dangers qui nous entourent, nous et notre pays, ne peuvent que rendre les Anglais et les Anglaises de la génération actuelle heureux d'être là à une telle époque. Nous ne pouvons que nous réjouir des responsabilités que le destin nous a fait l'honneur de nous confier et être fiers d'être les gardiens de notre pays à un moment où sa vie est en jeu. En mai 1940, sa personnalité avait été si complètement façonnée par ses expériences passées qu'elle ne devait plus notablement changer pour le restant de ses jours. La détermination opiniâtre était bien sûr déjà là, et elle pouvait se transformer imperceptiblement en dureté indéniable quand les circonstances l'exigeaient, ce qui allait désormais arriver souvent. Pourtant, cela allait de pair avec un calme sous la pression et un sens de l'humour qui lui permettait de faire des plaisanteries, aussi mauvaise que fût la situation.